Merci beaucoup déjà de tout ce que j'ai reçu et de toutes ces paroles et amicales, mais surtout trop d'éloges, ce qui ne me rend pas forcément la tâche très, très facile. Alors, pour rester dans un ton plus protocolaire, Monsieur le Président de l'Université Victor Segalen, mon cher Manuel, Monsieur le Président de la Société nationale française de médecine interne, mon cher Jean-Charles, Monsieur le médecin général, mon collègue de médecine interne, ce que vous n'avez peut-être pas dit, mes chers collègues, mes chers amis, je remercie tout d'abord, bien sûr, Claude Conry, Philippe Borla, Jean-Luc Pellegrin, de m'avoir permis d'intervenir ici dans ce final, dans cette séance, et un peu qui est... Je vais reprendre ce que disait M. Camilleri. C'est sans doute quand même la dernière fois que j'interviens ici, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on s'arrête. Donc, merci de m'avoir donné ainsi la parole dans cette université qui est en effet l'université qui nous appartient à tous, mais à laquelle je suis très viscéralement attaché pour plein de raisons et depuis de très nombreuses années, puisque je suis presque un peu un doyen d'âge ici maintenant. Alors... On m'a laissé carte blanche. Aucun sujet donc ne m'a été imposé. J'aurais pu effectivement vous parler, comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure, Jean-Charles Piette, j'aurais pu vous parler du CNU. En fait, j'y ai siégé pendant 20 ans, ce qui est beaucoup trop, soit étant élu, soit étant nommé, enfin pas de façon continue, heureusement. Enfin, ça m'a permis de connaître effectivement pas mal d'arcanes. Et puis j'ai présidé, en effet, j'ai pris la suite de Pierre Godot, c'était une suite redoutable, par le poids que cela signifiait, comme président de la section et la sous-section depuis 10 ans. Bon, j'aurais donc pu vous en parler longuement, en parler surtout des garçons ou des filles, excusez-moi de ce terme qui est un peu paternaliste, mais enfin, qu'on a pu identifier et puis qu'on a pu ainsi pousser et faire arriver jusqu'au but final, pour un très grand nombre d'entre eux, et puis pour d'autres qu'on a pu guider différemment. Bon, j'aurais pu vous parler aussi de tous ceux que j'ai rencontrés pendant ces... Alors j'ai calculé, comme maintenant j'ai pris ma retraite depuis peu, mais calculé ma pension, donc depuis ces 47 ans et 8 mois de service public, au service de l'État. Oui. Et enfin aussi de ce que j'ai fait au niveau de l'outre-mer. L'outre-mer au sens très large, les 7 dom-tom, et puis... les pays du Sud, francophones. Et là, je ne peux pas m'empêcher de dire, de souligner, après ce qu'a dit M. Camilleri, combien, moi qui suis un civil, je n'oserais pas dire, je n'ai rien d'antimilitariste, mais en tout cas, mes souvenirs de service militaire ne m'avaient pas particulièrement donné vocation à travailler avec l'armée au sens large. Et pourtant, quelle est l'aide que m'ont apporté les copains, les collègues, les amis de santé navale dans tous les pays où j'ai pu passer, y compris d'ailleurs dans certains départements et territoires d'outre-mer que j'ai pu retrouver et qui m'ont aidé dans ma tâche. Bon, en fait, j'ai donc choisi de vous parler de la médecine générale universitaire parce que c'est un autre débat, un autre enjeu qui me paraît majeur au jour d'aujourd'hui, enfin qui est majeur depuis 40 ans à peu près, mais qui le reste toujours au centre du débat et sur lequel je me suis en effet beaucoup investi. Alors... En préparant ce topo, je me suis rendu compte, et encore tout à l'heure, que je vais vous parler de choses qui finalement n'est connue, je ne vais pas recopier Aznavour, mais enfin, qui n'est connue que de ceux qui ont aujourd'hui 50 ans passés, si ce n'est pas plus. Parce que tout a commencé dans cette affaire... Après 58, après 60, au moment de la réforme Debré, la création des CHU. Les CHU sont créés, je ne sais pas jusqu'à quand ils resteront ainsi dans l'État, mais enfin en tout cas, ils provoquent, ils sont les responsables, c'est le facteur déclenchant de l'explosion des spécialités médicales. À l'époque, que j'ai connu modestement comme externe puis comme interne, chaque hospitalo-universitaire nouvellement intégré, parce que on n'a rien inventé avec l'intégration, nouvellement intégré, estime qu'il ne peut se valoriser que s'il se consacre totalement au bénéfice d'un organe ou d'un système. Et c'est donc l'explosion, effectivement, des spécialités multiples qui vont ainsi apparaître au fil des années, dans les années 60, 65, 70. Ce faisant, l'hôpital universitaire coupe les ponts avec la médecine de ville. C'est ce qu'a voulu dire André Lachaud, avec lequel j'ai travaillé longuement dans les années 89, je crois. La réforme de 58 enferme, c'est-à-dire la réforme de Bray, enferme l'université à l'hôpital. Les médecins libéraux deviennent des correspondants, que dis-je, ils deviennent des supplétifs du patron, du mandarin, car à l'époque le mandarin existe pleinement. Ce sont nos maîtres ou les maîtres de nos maîtres. Et donc le généraliste, eh bien, il a un rôle, c'est finalement de trouver le malade qu'il est incapable de soigner tout seul, et il faut qu'il le confie à son maître, puisque seul celui-ci, grâce à la technique, à la biotechnologie, va pouvoir assumer la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ce patient. Donc cette césure CHU médecin praticien, elle date de là. Et là, la contestation apparaît. On est dans les années post-68, et cette contestation, elle est liée, en somme, à ce climat. Il y a un certain nombre de médecins généralistes qui sont convaincus du caractère néfaste de cette césure, de cet éloignement brutal des hospitaliers. Quand je parle des hospitaliers, je pense naturellement et avant tout aux hospitalo-universitaires. La situation est différente, tout à fait différente au niveau des hôpitaux généraux, que l'on appelle encore à cette époque périphériques. Ce qui est tout dire. Donc, ces généralistes-là estiment que c'est eux qui peuvent le mieux former les futurs praticiens, et ils s'estiment même de façon excessive les seuls référents à cet égard. Un réseau se constitue. On pourrait citer des noms, mais bon, tout le monde, ceux qui les connaissent à Créteil, à Nancy, à Rouen, à Bordeaux, à Tours, à Bichat, à Bobigny, où Pierre Cornillot invente une faculté assez particulière, dite expérimentale d'ailleurs, de santé, médecine et biologie. Bon, ce réseau s'appuie alors sur une des premières associations de formation médicale continue, l'UNAFORMEC. L'idée que les généralistes prennent eux-mêmes en main la formation de leurs futurs confrères donc se fait jour, à l'exemple de ce qui existe déjà au Québec et qui va ensuite se poursuivre. Donc ces praticiens s'organisent en collège et ils se disent prêts à organiser cette formation en dehors, voire contre l'université, en soutenant une idée phare qui a eu un grand succès, le stage de compagnonnage de l'étudiant en pratique libérale. Alors il faut que vous sachiez que ce qu'est alors le troisième cycle des études médicales dans les années 70-72. Le concours d'internat, c'est l'époque où j'ai été nommé agrégé. Donc que voit-on? Le concours d'internat, voire royal, des futurs hospitalo-universitaires. D'accord. Et donc on est fier, on est très fier quand on est effectivement interne et on considère les autres comme de la roupie sans sonner. Les CES, voie secondaire, réservées aux non-anciens internes, quand ce n'est pas aux étrangers. Et pour les futurs généralistes, le stage interné, de 6 mois à 1 an, selon les régions, qui est réalisé n'importe où, un peu n'importe où, sans salaire honorable et sans formation théorique. Alors, dans ce contexte, dans ce climat délétère, on assiste à des affrontements verbaux, souvent très vifs, entre généralistes contestataires et qui sont volontiers provocateurs, et puis les représentants de l'institution universitaire qui n'acceptent pas, naturellement, cette remise en cause. Il y a heureusement, des nuances, et au niveau de ces différents personnages que je vous ai ainsi schématisés, quelques collègues qui sont conscients du caractère désastreux de cette situation et qui, je dirais surtout, défendent des idées très simples, à savoir que la relation médecin-malade n'est pas l'apanage, n'est pas de la seule compétence des généralistes et que la transmission du savoir n'est pas sans doute non plus l'apanage exclusif des universitaires. Les années 70, c'est une bonne année aussi, puisque vous le savez certainement, c'est aussi l'année du baptême officiel de la spécialité de médecine interne. Et ses pères fondateurs, de Claude Laroche à Pierre Godeau, sont convaincus qu'il faut faire émerger, face à une médecine hyper spécialisée, une filière de soins d'enseignement et de recherche fondée sur la prise en charge globale du malade. Et dans ces conditions, il n'est guère étonnant que finalement, ça soit au niveau de ces nouveaux médecins, de cette nouvelle filière universitaire, qui se redécouvre, si j'ose dire, sous le terme d'interniste, que c'est parmi eux que les généralistes comprennent que finalement, parmi eux, veulent se trouver les meilleurs de leurs interlocuteurs, voire des alliés au sein des facultés. Alors, 75, j'ai mis les pionniers bordelais de façon tout à fait excessive et un peu trop orgueilleuse. Il se trouve que cette année-là, j'ai accueilli quelqu'un qui est certainement oublié de beaucoup, voire de tous, en 75, le conseiller Louis Fougère, conseiller d'État. Louis Fougère était auteur d'un rapport où il préconisait tout ce dont on parle aujourd'hui. Il préconisait une formation obligatoire de 2 ans pour le futur généraliste avec des responsabilités d'interne et un stage chez le praticien. Et il se trouve que mon président d'université de l'époque, Jacques Latrille, m'a demandé, pas pour n'importe quelle raison, de l'accueillir. Accueil qui s'est passé, je m'en souviens encore, dans l'amphi 3, grand amphi, 800 places. Il y avait 800 étudiants, l'amphi était plein à ras-bord. Il y avait une appétence pour cette réforme possible qui est tombée à plat pendant ensuite les années suivantes. Pourquoi moi? Parce que j'avais pris l'initiative, jeune agrégé, de mettre en place un enseignement dit de médecine praticienne avec quelques collègues. Michel Amouretti était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là. Il faisait partie de ce groupe. Et puis avec des médecins praticiens de Bordeaux ou de Gironde ou des Pyrénées-Atlantiques ou du Lot-et-Garonne ou d'ailleurs qui venaient ici enseigner, participer à l'enseignement de façon totalement bénévole. À cette époque, personne ne parlait d'heures de cours complémentaires, etc. Et c'est dans ces conditions que le président de l'université donc, de l'époque, Jacques Latrille, m'a demandé d'imaginer un enseignement spécifique pour les généralistes, enfin en somme un enseignement, essayer de réformer le stage interné. On ne pouvait pas continuer dans ce bazar et c'est ainsi qu'a été créé le département qu'on a appelé le département de médecine praticienne de l'université Bordeaux 2. Et puis très vite, des expériences semblables ont vu le jour à Créteil avec le soutien du doyen Portos, à Bichat, à Nancy avec notre ami Jean-Pierre Grillat, à Tours avec le soutien d'André Goisé, à Lille avec Bernard de Vulder. Bon. Et naturellement, et vous le verrez dans un instant, naturellement, ces départements se sont trouvés tous sous la responsabilité, pleine ou entière, ou en co-association avec un généraliste, dirigé par un interniste. Moi-même à Bordeaux, le département de médecine praticienne était dirigé alors par moi-même et avec un co-directeur, dont je cite le nom parce que c'est un homme qui a joué beaucoup d'importance dans cette affaire, qui était le docteur René Chassaigne, président de l'UNAFORMEC Aquitaine, qui a disparu il y a quelques semaines. Alors, le temps des réformes, on pourrait dire qu'elle continue encore. Mais enfin, c'est à partir de 80 qu'on s'est engagé dans cette voie. Les réformes ont été précédées d'ailleurs d'abord par un grand nombre de commissions dans ces années 81, qui correspondait à l'élection présidentielle que vous savez. Il y a eu 4 ou 5 commissions qui se sont ainsi réunies, présidées par Jacques Roux, par Maxime Seligman, par UF, par Nouchi. Bon, on a tous tourné, disons, avec les mêmes idées. Moi-même, j'ai participé à 4 de ces commissions. Et on est arrivé à l'idée qu'il fallait absolument réformer ce troisième cycle et imaginer, ce terme qui a été extrêmement critiqué par beaucoup, l'idée d'un internat commun pour toutes les spécialités. C'est la loi du 23 décembre 82, c'est la fin des CES, c'est la création de l'internat donc dit pour tous, entre guillemets, parce qu'il est pour tous, sauf pour la médecine générale, avec, il faut bien dire, une opposition très forte de personnes qui ont souvent un rôle très important dans cette affaire, à savoir les internes des hôpitaux eux-mêmes, et en particulier les internes des hôpitaux de Paris. Je ne sais pas pourquoi je regarde Jean-Charles Piette à ce moment-là de façon particulière. Enfin, quoi qu'il en soit, La loi est votée, les décrets d'application suivent en 84, et c'est ainsi que débute pour les généralistes le résidana d'une durée de 2 ans, porté à 2 ans et demi, puis à 3 ans en 2001. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, 82, 2001, c'est 10 ans chaque fois, ou 10 ou 12 ans de réforme. Le stage chez le praticien est mis en place à temps partiel. Il est d'abord de 3 mois, puis il passe à 6 mois en étant obligatoire. Mais il faut bien dire que quand les décrets d'application de ce dont je vous parle paraissent, c'est-à-dire les années, je pense, 88, 89, le stage chez le praticien, par exemple, existe à Nancy depuis 12 ans, il existe à Bordeaux depuis 10 ans, il existe à Tours, pareil, depuis 10 ou 11 ans. Et à l'occasion de chaque congrès de la SNFMI, à chaque réunion des séminaires pédagogiques que nous faisons alors à Maffliers, les internistes co-responsables dans leur UFR d'un département de médecine générale, de médecine praticienne, confrontent leurs problèmes, leurs difficultés et leurs initiatives. André Goizet, qui préside à ce moment-là la conférence doyen, met en place le secrétariat national des directeurs des commissions du troisième cycle, qui est présidé par Jean-Pierre Grillat, que j'ai cité tout à l'heure, pendant de nombreuses années, qui sera ensuite relayé par Michel de Tilleux. En 1989, vous voyez, tout ceci se fait avec un grand espace de temps, une commission interministérielle d'évaluation et de proposition est mise en place. Elle est confiée à un conseiller à la Cour des comptes, André Lachaud, un homme délicieux et extrêmement... enfin, avec qui j'ai travaillé pendant plus d'un an, 1 an et demi, avec quelques autres. Il y avait parmi les internistes le docteur Jean Toulouse, que certains ont certainement connu. Et nous participons, alors là, nous allons directement sur le terrain, nous allons voir ce qui se passe réellement. On va voir, par exemple, où en est la fameuse faculté expérimentale de Bobigny. On est très surpris. Et puis, on va partout. On va d'ailleurs, on visite par exemple toutes les UFR parisiennes. Ça, c'était une idée un peu particulière qui m'était un peu personnelle. Et on arrive à officialiser, à la suite de cette commission, la nomination des enseignants associés, des maîtres de conférences et des professeurs associés de médecine générale. Par contre, notre principale recommandation, à savoir l'accès au troisième cycle par une voie commune à tous, n'est toujours pas retenue par le ministère, c'est-à-dire qu'on reste toujours à la notion de sélection par l'échec à l'internat, des futurs généralistes. 2 ans, qu'est-ce que je dis, 8 ou 9 ans plus tard, avec une, donc, vous voyez, la sage lenteur de nos gouvernants, Jean-François Mattei et Jean-Pierre Etienne, encore un interniste, je parle de Jean-Pierre Etienne, publient un rapport qui reprend je dirais, les mêmes idées et les mêmes recommandations, et c'est en la même l'année suivante, le Comité national d'évaluation, à l'initiative de son vice-président, notre collègue Georges Crémer, ancien président de Paris 5, engage une vaste enquête qui va s'étaler sur l'année 80 jusqu'à 98, avec une quinzaine de recommandations. Tout ceci est totalement d'actualité, rien n'a véritablement changé. Alors tout ceci, il y a quand même, ça bouge un peu. En 99, Lionel Jospin est Premier ministre. Il y a des états généraux de la santé, comme ceux qui ont eu lieu, je crois, l'année dernière. Et donc, Jospin déclare, je lis, « Les étudiants entreront en troisième cycle après avoir passé un concours d'internat national, anonyme et classant, donc tous les étudiants, et la médecine générale sera reconnue comme une spécialité au même titre que les autres. » Et cette nouvelle organisation va être actée, comme on dit, dans la loi, une nouvelle loi, la loi de modernisation sociale, qui est une loi extrêmement vaste et qui concerne énormément de problèmes, mais dans cette loi, un article de janvier 2002, donc concerne uniquement la formation médicale, et là il est écrit que la médecine générale est reconnue comme une spécialité à part entière, sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées, ce qui implique que soit mis en place une filière universitaire spécifique. Alors pendant cette année, et pendant toutes ces années, les départements universitaires de médecine générale se sont multipliés. Et dans chaque UFR, ils sont dirigés par un hospitalo-universitaire coordonnateur et un enseignant associé de médecine générale. Ils disposent de locaux, ils disposent de crédits pas énormes, mais quelques-uns, les heures complémentaires que l'on gratte, soit auprès de son doyen, soit auprès de son université, selon la structure à laquelle on appartient. Je crois que Bordeaux est le seul département universitaire, véritablement, de médecine générale, les autres étant liés au décanat. Quoi qu'il en soit, quand on regarde la liste des universitaires coordonnateurs, vous l'avez, excusez-moi, j'en ai certainement oublié, il n'y a pas photo, je le dis pour les non-internistes qui sont ici présents, mais Jean-Louis Dupont, Besançon, Jean Joucan, Brest, Philippe Le Tellier à Caen, Pierre-Philippe à Clermont-Ferrand, Jean-Louis Debru à Grenoble, Bernard de Vulder, puis Pierre-Yves Atron, Pierre-Jean Harlet à Marseille, alors de Vulder à Lille évidemment et Atron, monsieur... Pierre-Jean Harlet à Marseille, Jacques Fourcade à Montpellier, Jean-Dominique de Corvin, ici au deuxième rang à Nancy, Yves Grolot, puis Jacques Barrier à Nantes, Gabriel Fusibé à Nice, Jacques Princeau, puis Alain Baglin à Paris-Ouest, Jean-Charles Piette à Paris 6, Jean Cabane à Paris 7, j'ai pas mis tous les Parisiens parce qu'ils risquaient de ne pas avoir assez de place. Jean-François Bergman, ça c'est pour les oublis. Jean-François Bergman, qui est un interniste, même s'il est aussi thérapeute, à Paris 7, Philippe Patrick Roblot, excusez-moi, à Poitiers, Jean-Loup Pénafort à Reims, Bernard Grosbois à Rennes, Hervé Lévesque à Rouen, Jean-Louis Chienger à Strasbourg, Philippe Arlet à Toulouse. Bon, ceux-là, ils ont fait du travail pendant des années. Donc, quand je dis, évidemment, médecine interne, médecine générale, même combat, excusez-moi, on n'invente rien. Et on a quand même quelques légitimités à parler de cette médecine générale, et on a aussi quelques légitimités à ce que les généralistes nous écoutent, car ils nous écoutent. Il faut savoir leur parler, simplement, et je pense que c'est ça, quelquefois, qui pose problème. Alors, précisément, avant les réformes, un dialogue s'instaure. J'espère que Daniel Sereni est là, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, parce qu'il est essentiel dans ce dialogue, excusez-moi. Mais en 2001, c'est les rencontres de Saint-Louis. Et alors, qui a pris l'initiative? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est les internistes ou les généralistes? Est-ce que c'est les deux ensemble? J'ai l'impression qu'il y a eu une conjonction assez facile qui s'est créée. Daniel Sereni, donc, étant à Saint-Louis, on s'est réunis à Saint-Louis, avec quelques-uns, Bernard de Vulder, Hubert Courtois, Jean-Marc Ziza, avec le CNGE, car à ce moment-là, les généralistes enseignants se sont mis en collège. On a une chance, enfin, j'ai une chance moi particulière dans le dialogue, parce que le président est à l'époque Bernard Gay, ici présent, au dernier rang, mais les derniers seront les premiers, comme tu le sais. Et quoi qu'il en soit, nous engageons le dialogue. Et pourquoi on engage le dialogue? Parce qu'on se dit qu'il est absolument indispensable de préparer la réforme, de préparer l'évolution, de réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble, parce qu'on se rend compte que finalement, certes, nous avons des lieux d'exercice différents, les uns à l'hôpital, les autres en ambulatoire, ne revenons pas là-dessus, pas de mélange des genres à cet égard, nous avons des lieux d'exercice différents, mais c'est bien une démarche globale, la même que nous avons, et par conséquent, il y a lieu de réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble. Alors on réfléchit, est-ce qu'il n'y a pas des modules communs qu'on pourrait faire, imaginer pour la formation des généralistes et des internistes? Et s'il y a un jour, s'il y a une filière, il y aura bien un clinica, comment se fera ce clinica? Clinica de médecine générale ou clinica de généralistes dans d'autres services hospitaliers comme la médecine interne? La recherche en médecine générale, puisqu'on sait que cette recherche à ce stade, et malheureusement encore, elle est extrêmement balbutiante. Et il pourrait-il y avoir des passerelles entre les deux? Nous poursuivons le dialogue pendant toutes ces années. En 2003, nous avons un nouvel interlocuteur qui a remplacé Bernard Gay, qui est Pierre-Louis Druet, de Paris-Ouest, avec qui nous avons, je poursuis personnellement et d'autres, d'excellentes relations de collaboration et de compréhension mutuelle. Et là, on se pose la question de savoir, est-ce que quand même, comment va se faire la tutélarisation si elle va avoir lieu un jour? Et pourrait-il y avoir à ce moment-là une section spécifique, on ne sait pas trop, au niveau du CNU? Et cette question, elle revient sur une rencontre que j'ai envie de dire, d'appeler cruciale, en 2004, le 14 février 2004, où nous allons au siège du CNGE à Vincennes, alors on va dire la rencontre de Vincennes, Daniel Sereni et moi, et nous déplaçons là-bas, dans cette banlieue qui me paraît assez difficile à joindre personnellement, et nous faisons le point avec nos interlocuteurs, toujours les mêmes sujets, les enseignements communs, les passerelles, la coordination des départements de médecine générale, parce qu'on sent bien qu'il y a une certaine impatience. On ne va pas continuer éternellement, nous internistes, à coordonner les départements de médecine générale qui concernent une spécialité qui n'est pas non plus la nôtre. Je pense que les pneumologues ne seraient pas satisfaits d'avoir été dirigés par un collège de cardiologues. Enfin, je prends cet exemple tout à fait au hasard. Enfin, nous discutons du statut aussi des futurs enseignants titulaires, de ce qu'on appelle d'ores et déjà les PUPA pour le A d'ambulatoire. Et puis, comment va-t-on concilier l'exercice universitaire d'enseignement et de recherche et l'exercice professionnel, puisqu'il est bien entendu que ces médecins généralistes enseignants devront travailler en secteur ambulatoire et avoir une activité professionnelle réelle. Alors c'est vrai que là aussi, nous reparlons du problème de la sous-section du CNU, et pas à ma grande surprise, mais quand même avec une certaine satisfaction, il a de se dire qu'on a peut-être quand même évolué et gagné quelque chose. Nos interlocuteurs nous disent tout de trac et vraiment très clairement, et Daniel, on était non pas étonnés, mais enfin, et nous disent s'il doit y avoir une sous-section du CNU, s'il doit y avoir une option au niveau du CNU, ça ne peut être qu'avec vous. Donc c'est pas nous internistes qui avons fait une OPA, comme le prétendent certains, sur la médecine générale. Simplement, on s'est rencontrés. Et quand on se rencontre, on se plaît. Et quand on se plaît, on ne vit pas forcément toujours ensemble, mais en tout cas, on peut faire un bout de chemin ensemble. Alors maintenant, échec ou victoire, c'est la troisième partie. Ça va aller vite parce que c'est plutôt, enfin, selon ce que vous voulez, c'est soit l'échec, soit la victoire. Que fait-on dans cette période? Nous rencontrons les ministres et leurs conseillers. Ou les conseillers, alors, mais je n'ai pas, je les ai bien sûr pas tous mis. Je n'ai pas cité M. Brunel, d'heureuse mémoire. Nous rencontrons ensemble Michel Desnos, conseiller à l'époque de Luc Ferry, et quand Joseph Réfer, c'est au cabinet. Fin 2004, j'ai l'occasion, d'un congrès du CNGE, de dire clairement, comme certains le connaissent, effectivement, j'ai la parole assez libre, de dire clairement à Bernard Nemitz et à Philippe Thibault ce que je pense de la situation qui est celle de 2004, qui n'est pas tellement différente de la nôtre. 2004-2007, des réunions incessantes, enfin permanentes, très régulières, tous les trois mois, quelquefois à 18h ou à 19h le soir, ce qui est très pratique pour un provincial qui forcément doit passer sa nuit à Paris. Donc rue Descartes, rue de Châteaudun, rue de Grenelle, c'est pas par hasard que je cite ces rues, pour ceux qui connaissent la géographie ministérielle, parce que le ministère de la Santé est assez absent. Il est physiquement présent, mais peu présent dans la réalité, tout au moins pendant cette période. Alors, pendant toute cette période, j'ai un complice idéal. On fait un duo parfait. Écoute, Jean-Charles, tu m'as fait trop de compliments, mais moi, je veux t'en faire aussi, parce que tu sais ce que je pense de toi. Et tout le mal que je pense que tu m'aies ainsi quitté, tu vois, parce que c'est une déclaration d'amour. Enfin, quoi qu'il en soit, nous sommes toujours ensemble dans ces réunions, ce qui est forcément indispensable, surtout c'est plus pratique d'être certain d'avoir un relais parisien, et puis de parler la même voix, la même force, et puis c'est vrai que quand un collègue parisien comme Jean-Charles parle aussi avec de la pitié salpêtrière, quelquefois c'est plus important qu'un provincial qui bordelais, quelquefois... que l'on juge assez vite comme un peu caractériel. Alors, ces réunions se poursuivent jusqu'en 2005, 2006, etc. Et finalement, c'est vrai que c'est à Philippe Thibault qu'il faut rendre hommage, car il cède à nos incitations et il décide, il pense indispensable qu'il y ait un ancrage de la filière au sein du CNU. On le souhaitait, on l'avait demandé, mais c'est accepté. Et il y a l'ouverture d'une option de médecine générale au sein de la sous-section 5301, arrêtée du 24 ou 25 octobre. C'est très important. Bon, il y a 10 ans, je me souviens, Pierre Godot, c'était donc un peu avant, il y a 11 ans, quand Pierre Godot a accepté la proposition de Jean Rey de devoir créer une option de gériatrie au sein de la sous-section. Il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de protestations, il y a eu des collègues qui ont craint de se trouver violés, en somme, et que nous allions perdre notre caractère pur et dur. Mais merci à Claude Canry d'avoir évoqué les lettres d'identité avec un S, parce qu'effectivement, nous tenions beaucoup à ce symbole, et c'est, je crois, important. Alors, que se passe-t-il ensuite? Les deux ministres de l'époque, c'est Xavier Bertrand et François Goulard, Il décide de missionner, quand on ne sait pas trop quoi faire, il missionne une mission de l'IGAS. L'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et l'IGANER. Cette commission est pilotée par quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, qui est Jean-Pierre Pitors, que beaucoup ont connu, ceux en tout cas qui s'occupaient des révisions des effectifs, et qui est maintenant dans le placard de l'IGANER. Monsieur Pitors et ses collègues font un travail remarquable. Si vous en avez l'occasion, lisez son rapport, il y a tout ce qu'il faut. Il préconise tout ce qu'il faut, il n'y a rien à dire de plus, et en particulier, il insiste pour conclure, ça ferait plaisir à Monsieur Fagnès, mais je ne sais pas s'il a lu vraiment ce rapport, sur l'effort budgétaire indispensable pour favoriser les recrutements des futurs titulaires et des associés, parce qu'il est évident que si on veut créer une filière, il faut des postes. Et s'il faut des emplois, il ne faut pas forcément les prendre aux autres. Enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, ce rapport est suivi de très nombreuses réunions de commissions. JCP et JB, je l'ai déjà dit, en membres quasi permanents. Il y a urgence à se réunir parce que 2007, eh bien, il y a une élection présidentielle qui apparaît. On sait qu'il va y avoir un changement d'équipe. Philippe Thibault décide, dans la précipitation, de créer 20 postes de chef de clinique de médecine générale pour la rentrée 2007. Ces postes sont créés, je ne sais pas sur quel budget, mais enfin, il y a eu création. Les 20 postes n'ont pas été occupés, faute de volontaires. De toute façon, ils ont été créés sans statut. Et ils ont été affectés de façon aléatoire dans de nombreux cas. Mais enfin, ne critiquons pas forcément systématiquement. Et puis, nous arrivons à 2007-2008. Donc, une nouvelle équipe. Madame Valérie Pécresse est au ministère. Elle a un conseiller santé qui est Pierre-Louis Fagnès. Et Fagnès met tout à plat. Il met tout à plat et il dit qu'il faut, rien ne peut se faire s'il n'y a pas une nouvelle loi. Et effectivement, cette loi va sortir au début de l'année 2008. Elle est simplement spécifique pour créer la filière, institutionnaliser des titulaires ou des non-titulaires, des anciens titulaires ou non-titulaires de médecine générale. Cette loi est précédée, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dépose le projet de loi. Le projet de loi est déposé par un collègue tout à fait respectable, je dis ça parce que c'est quand même mon aîné, c'est le professeur Francis Giraud, sénateur des Bouches-du-Rhône à l'époque, et son rapporteur de la loi, c'est Jean-Léonce Dupont, qui est le rapporteur de la loi LRU. Bon, nous ne sommes pas totalement ignorés, puisque tant Francis Giraud que puis Jean-Léonce Dupont nous demandent à Jean-Charles et à moi de venir les voir et pour leur expliquer que nous, HU, on n'est pas opposés à cette loi, leur expliquer ce qu'est, on recommence tout, le stage et le praticien, etc., enfin, tout est réexpliqué depuis la base. Et quoi qu'il en soit, la loi est votée. Et l'autre jour, j'entendais qu'une loi a été votée de façon exceptionnelle à l'unanimité. Ce n'est pas l'exception, puisque cette loi est votée à l'unanimité le 6 décembre 2007 par le Sénat, le 29 janvier 2008 par l'Assemblée nationale, et elle définit tout ce qu'il y a à voir, à savoir le statut des personnels enseignants de médecine générale, aussi bien sur le plan des soins, de l'enseignement et de la recherche. 6 mois plus tard, un décret du 30 juillet définit malheureusement exclusivement le statut, le volet universitaire. Rien dans ce décret ne permet de dire quelles seront les conditions d'exercice ambulatoire, c'est-à-dire que la santé reste également absente de ce débat, ce qui pose problème. Et enfin, tout progresse. Le 17 novembre, il y a 3 semaines environ, un arrêté annonce une commission nationale d'intégration, parce que si l'on veut bien qu'il y ait des professeurs, il faut bien qu'il y ait les premiers intégrés, comme on l'a connu en 58 ou en 60, quand nos patrons de l'époque sont passés du statut de médecin des hôpitaux à professeur des universités. Excusez-moi, ils sont passés professeur des universités sans avoir l'HDR et sans avoir la thèse de science et sans avoir beaucoup de publications au compteur. Donc il faut aussi être réaliste et savoir se souvenir avec modestie de ce dont on vient, surtout quand on entend des juristes qui nous sortent au niveau du ministère que pour être MCUPH, il faut absolument avoir l'HDR. Enfin, on a entendu des choses assez particulières. Alors, pendant cette période, et j'ai bientôt fini, rassurez-vous, la mairie est proche. Quel a été notre rôle? Bon, il tient en une dia. Pendant toutes ces années, vous avez bien compris que, bon, moi, en tant que président, c'était mon boulot, et avec le soutien de tous les collègues ici présents Hervé, l'évêque, Jean-Charles, Bernard Grosbois, Jean Joucan et beaucoup d'autres, tous. On avait une section extrêmement soudée. J'espère que, enfin, je suis certain qu'elle restera ainsi soudée. Et c'était assez agréable de travailler dans cette configuration un peu d'amitié et en même temps de combat. Alors, nous avons décidé de nous investir dans la présélection de tous les enseignants associés de médecine générale. Ce n'était pas vraiment notre rôle unique, parce que ça, c'est un rôle qui était réservé à ce qu'on appelle le groupe. Le CNU, c'est un rôle de système, hein, parce que qu'on appelle le groupe, c'est le groupe des cadors, quoi. C'est les présidents et vice-présidents de section qui donnaient leur avis jusqu'ici. Alors aussi bien le président de la section d'ophtalmologie ou de stomatologie, ou de, enfin c'est la même, je veux dire, vu ses compétences, donnait son avis sur la sélection des généralistes. On a un peu pris le pouvoir. Et pendant ces 4 ans, et puis maintenant forcément depuis la création de l'option, le rôle a été de proposer nous-mêmes ceux qui nous paraissaient dignes d'être promus, MCU ou PU associés de médecine générale. Et je dois dire qu'on a réussi ainsi, enfin, je n'ai pas fait le compte, mais je suis sûr que depuis, pendant ces 4 ou 5 ans, la sous-section de médecine interne a avalisé 120 ou 110 dossiers d'enseignants associés de médecine. Autrement dit, on les connaît tous. On les connaît tous, y compris avec leurs qualités et avec leurs faiblesses. Alors, nous arrivons ainsi, bon, au terme d'une histoire de 40 et quelques années, on arrive à quoi? La médecine générale est reconnue en tant que discipline universitaire. Elle devrait être enseignée sous la responsabilité de collègues investis dans la pédagogie et la recherche clinique, tout en restant des professionnels de terrain. Il est clair que la proximité, enfin moi, il me semble, que la proximité de pensée avec les internistes qui les auront accompagnés pendant tout au long de cette longue route justifie qu'ils aient forcément leur place pleine et entière au sein de notre sous-section du CNU. C'est-à-dire que la sous-section qui accueille actuellement 12, par exemple, professeurs au PUPH de médecine interne et de gériatrie comporte 3 gériatres et puis il y a des maîtres de conférences. Il faudra bien qu'il y ait, à un moment donné, un professeur de médecine générale au sein de cette sous-section et qu'il y ait aussi un maître de conférence. Bon, tout ceci n'interdit pas, bien sûr, à terme, l'évolution un jour, à long terme, de cette sous-section vers l'autonomie, s'ils en ont envie et s'ils sont assez nombreux. Mais actuellement, nous sommes 115 internistes, 39 gériatres. Les gériatres sont très heureux avec nous, je crois. Enfin, ceux qui sont là pourraient, je pense, le dire. Et ils n'ont aucune envie au jour d'aujourd'hui de s'en émanciper. S'ils le veulent, ils le feront. Ça, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Alors, notre satisfaction est-elle totale? Bien sûr que non, et je vais conclure là-dessus. Bien sûr que non, parce que nous craignons très fortement, comme d'habitude, que les moyens nécessaires ne suivent pas. Au jour d'aujourd'hui, les futurs enseignants de médecine générale devraient participer à la prise en charge de la moitié des étudiants inscrits en troisième cycle, 50% de l'examen national classant, ça veut dire 6500 étudiants. Ils doivent structurer une recherche qui est balbutiante, il faut bien le dire, pour ne pas dire absente. Ils devraient participer avec les hospitalo-universitaires des autres disciplines au tronc commun des études médicales au cours du deuxième cycle. Ils doivent organiser le stage devenu obligatoire en deuxième cycle. Or, la réalité, aujourd'hui, il y a 136 enseignants associés de médecine générale. 25% ont plus de 60 ans. 65%, si on prend une fourchette plus large, ont entre 55 et 65 ans. 13% ont moins de 50 ans. Autrement dit, il n'y a pas de relève. Et il est clair aussi, et il serait totalement démagogique, ce n'est pas mon style, de penser que tous les associés ont les potentialités de devenir titulaires. Bien sûr que non. Ils n'en ont pas les capacités, ils n'ont d'ailleurs pas forcément envie. Et d'ailleurs, dans quel intérêt? Autre problème pour le calcul de leur retraite. Alors, comment construire l'avenir sans création d'emplois? Il y a 3 semaines, j'étais à Angers, au Congrès national des généralistes enseignants. On a exprimé tout cela. J'ai entendu les demandes des généralistes qui espèrent, et c'est presque du fantasme, mais bon, et qui espèrent, mais Bernard Guay ne va pas être content de ce mot, mais parce que 1 à 3 enseignants titulaires de médecine générale dans chaque UFR. Un nombre d'associés double du chiffre actuel, 2 postes de chef de clinique par UFR. Or, si on regarde les choses, il y a eu dans les dernières années passées au maximum 6 créations d'emplois par an à mi-temps. À mi-temps, c'est-à-dire payé à moitié qu'un professeur non médical. Et actuellement, aucune création n'est prévue par le cadre du ministère. Et il est recommandé à chaque doyen, et vous le savez tous, il a été recommandé en tout cas dans le cadre de la révision des effectifs 2009, de n'envisager l'ouverture de postes en médecine générale que par des redéploiements, donc aux dépens des disciplines hospitalo-universitaires. Et là, on voit sourdre les possibilités, la renaissance d'une guerre entre les tenants des disciplines dites nobles, excusez-moi, et les autres. Et la médecine interne ne risque-t-elle pas de se voir amputée de façon préférentielle dans ses propres moyens au nom de la solidarité et de cette histoire commune, autrement dit, puisque vous les aimez tant, donner des postes. Alors, pour simplifier, donc pour terminer, notre combat ont bien été quand même les mêmes, ce qui justifie effectivement, je pense, le titre de cet exposé. Elle a été le même pour arracher la reconnaissance de nos disciplines, aussi bien la médecine interne par rapport aux autres spécialistes d'organes que les généralistes pour se faire reconnaître en tant que tels. Nos enjeux autour de la prise en charge globale du patient sont partagés. Nous partageons, en tout cas, nous devrions partager les mêmes objectifs. Nous devons, par contre, je crois, rester fermes pour nous battre ensemble, avec un grand risque que je vois à la fin de ma carrière, enfin, qui est déjà maintenant terminée, c'est que, j'arrive pas à m'y habituer ça, mais c'est qu'effectivement, nous risquons de céder un jour à la lassitude, au risque que les internistes rejoignent le camp d'un hôpital universitaire retranché et replié sur lui-même, risque, ça existe très nettement, de voir les généralistes beaucoup moins tentés que leurs aînés pour transmettre leur vécu à un moment où leur activité pour leur exercice se réduit comme peau de chagrin, où la profession est sinistrée, où l'on parle du médecin généraliste une espèce menacée. D'ailleurs, il n'y a plus de jeunes qui s'installent, ils mettent 10 ans avant de s'installer, et quand ils ont 40 ans, ils ont envie de tout à fait de faire autre chose, d'ailleurs, y compris d'autres activités que la médecine générale. Donc ce sont des conclusions incertaines, voire moroses. En ayant appris néanmoins ce que je pense que vous avez compris, c'est la valeur de la persévérance et de l'obstination. Je confie et je suis confiant plutôt dans la détermination de mes successeurs, de Pierre-Jean Véler qui est ici présent, nouveau président du CNU et que je n'ai aucunement envie d'oublier dans cette péroraison, si j'ose dire. Alors on peut toujours rêver. J'avais une dernière dia, mais je ne la mettrai pas parce que c'était une dia optimiste. Et finalement, je préfère rester sur un certain flou en souhaitant simplement, pour terminer, un rapprochement progressif de nos disciplines avec le même esprit d'origine, la prise en charge globale de nos patients dans nos champs d'exercice spécifiques. Je vous remercie.